Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup de chance de parler derrière Gustave parce qu'il a posé énormément déjà d'éléments qui vont m'aider peut-être à être plus court, mais j'en suis pas sûr. Enfin, je m'en vais faire mon possible. La déclaration sur le droit au développement a été adoptée en fait le 2 décembre 1986. Et donc, il y a 21 ans et non pas 20 ans. Je précise ça non pas pour contredire Michel Heger, mais pour dire que c'était le point de départ, en fait, de ce symposium et du bouquin qu'on a sorti parallèlement, parce qu'on s'est étonné, ou pas vraiment étonné, que l'ONU, qui est très friand des anniversaires et des grands bastringues, n'ait pas dit un mot au 20e anniversaire de cette importante déclaration. Déclaration qui a été adoptée par 146 États sur 159, avec 8 abstentions, je vais vous les dire. Le Danemark, la Finlande, la République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne n'était pas encore réunifiée, l'Islande, Israël, Japon, Suède et Royaume-Uni. Et avec une seule opposition, d'ailleurs, qu'on rencontre fréquemment sur ces questions-là, dans tout le débat onusien pendant et encore maintenant, celle des États-Unis. Et 4 non-votants, un de ceux-là, à part l'Afrique du Sud, ce sont plutôt des petits pays, un de ceux-là a par contre a soutenu la résolution qui accompagnait par la suite l'adoption de cette déclaration. Si on regarde et si on admet, évidemment c'est très discutable, que les gouvernements représentent les peuples. En l'occurrence, les 146 États, ça représente à peu près 90%, peut-être un peu plus, de la population mondiale, et la seule voix contre représentait moins de 5% de la population mondiale. Une déclaration dans le langage onusien, c'est quand même un texte important. Elle n'a pas une valeur contraignante du droit au positif, mais elle est particulièrement solennelle. Et quand les États utilisent cette terminologie de déclaration, c'est bien dans l'intention que ça vienne, que ça fasse partie par la suite du droit positif, parce qu'elle est mise en œuvre réellement par beaucoup d'États et qu'elle s'instaure dans le droit positif. On a donné une petite définition là, dans ce bouquin à la page 156, comme j'accélère, je m'en vais pas la citer. Et en même temps, elle a beaucoup de fondements juridiques, tels que la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle sur les droits de l'homme, les pactes internationaux sur les droits de l'homme de 66, etc., etc. C'est-à-dire, elle n'est pas sortie de néant. Elle est véritablement, en fait, une prolongation, un programme mettant en œuvre les fondements même de la Charte des Nations Unies. Si les pays du Sud fraîchement décolonisés, le mouvement des non-alignés en particulier, avec l'appui des pays socialistes, ont choisi le terrain de l'ONU, c'est parce que c'était le terrain privilégié pour eux, où ils arrivaient en nombre, pour faire valoir leur poids politique. Ce ne sont pas des pays qui avaient une grande puissance militaire, ni économique, et donc ce terrain, le terrain de la démocratie, de l'ONU, un pays, une voix, c'est une ébauche de démocratie internationale était le terrain où il pouvait le mieux, pensait-il, affirmer une autre orientation, c'est-à-dire reposer, tenter de reposer l'organisation du monde sur de nouvelles bases, un changement radical par rapport au monde hérité du colonialisme, de l'impérialisme, de siècles de colonialisme et d'impérialisme. Ce qu'il y a d'intéressant, je crois que la première idée, Gustave l'a déjà souligné, d'ailleurs il a dit beaucoup de choses que je m'en vais, dans lesquelles je vais y revenir, c'est que cette pensée, la pensée du droit au développement, part du général, part du global, part de l'intérêt général de l'ensemble des populations mondiales, sur une base d'égalité, d'équité, de justice, de non-discrimination. En fait, en même temps, on peut dire, elle pense globalisation, mais dans un sens complètement opposé à la globalisation néolibérale. Globalisation néolibérale, c'est considérer le monde comme un terrain d'expansion pour les multinationales, où les meilleurs l'emportent, les meilleurs, les plus forts l'emportent, en l'écrasant les autres, concurrence, compétition, etc., etc. Au contraire, là, la réflexion de base, elle part de partir de l'intérêt de tous et de toutes, de tous les peuples, de tous les individus, sur une base d'égalité, de chercher à améliorer le bien-être de toutes et tous, sans discrimination, d'implanter et de développer l'ensemble des droits humains, y compris donc les droits économiques, sociaux, culturels, mais aussi les droits civils et politiques, le droit au développement devenant un droit qui les coiffe un peu tous, mais qui ne peut pas se réaliser sans la réalisation de l'ensemble de ces droits. Voilà l'idée. Donc l'objectif qui est posé est un objectif largement généreux et qui est véritablement en opposition, on ne peut pas le dire autrement, en opposition avec les politiques qui sont mises en œuvre en réalité, et notamment depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Évidemment que tout cela, et je crois que je ne vais pas développer là-dessus, présuppose des principes fondamentaux, qui sont les principes fondateurs de l'ONU, mais qui ont été fortement ravivés et affirmés par les pays du Sud au moment de la décolonisation et de leur entrée dans l'ONU. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'égalité de droit de toutes les nations et de tous les États, c'est la souveraineté des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, etc. C'est des fondements qui sont dans toute la démarche des pays du Sud, du mouvement non-aligné pendant 30 ans de lutte et de pions posés au sein de l'ONU à travers de nouvelles déclarations, de nouvelles chartes, etc. C'est la démarche d'enfoncer ces points très fortement et de renforcer cette démarche de déclaration en déclaration. Et là, le nouveau Guslav l'a souligné, c'est qu'on est à l'opposé des politiques qui ont été véritablement mises en œuvre, puisque si on parle de l'égalité des nations, si on parle de l'égalité des peuples et leur droit de choisir leur système politique, de choisir leur développement, etc., etc., on va complètement à l'encontre des politiques imposées avec le chantage de la dette, du FMI, des banques mondiales, de l'OMC, même si c'est un pays une voix, puisque c'est un projet qui est accepté comme un tout, c'est à prendre ou à laisser, mais si on laisse, on est victime véritablement de discrimination, de rejet, de non-accès au marché mondial. Ce qu'il y a aussi d'important, je dirais, c'est que tout est posé en termes de devoirs des États. Et on verra que ce sont des devoirs non seulement dans la coopération internationale, donc sur le plan international, mais des devoirs aussi sur le plan interne. Si on compare, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, avec les objectifs du millénaire, on est dans un temps complètement différent. Et là, je le signerai tout à l'heure, on s'est amusé pour ce bouquin, amusé oui parce que c'est un peu caricatural, à essayer de faire un parallèle entre la déclaration sur le droit au développement ou la charte sur les droits et devoirs économiques des États et les objectifs du millénaire, vous verrez que le ton et le contenu est complètement différent. Donc il y a beaucoup de devoirs qui sont posés aux États. S'il suffit de lire la déclaration sur le droit au développement, j'en cite quelques-uns. Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le droit au développement et éliminer les obstacles du développement, c'est-à-dire c'est des droits et des devoirs qui aussi ont un aspect positif et un aspect négatif. Les États ont le devoir de prendre séparément et conjointement des mesures pour formuler des politiques internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au développement. Il y a d'autres, j'en cite encore un dernier, puisque Gustave, à juste titre, a mis l'accent sur la question de la guerre, de la militarisation, etc. C'est l'article 7 de la déclaration. Tous les États doivent promouvoir l'instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationale et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement général et complet sous un contrôle international effectif et pour assurer que les ressources libérées, à la suite de mesures effectives de désarmement, soient employées aux fins de développement global, en partie celui des pays en développement. Et j'insiste quand même sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a toujours une insistance, effectivement, dans toutes les mesures, sur la situation qui a été faite aux pays en développement. Mais c'est jamais contre les pays dits développés. C'est simplement prendre la dimension de l'histoire et du développement inégal, qui d'ailleurs qui perdure, le développement inégal entre les peuples. Il s'agit donc de, pour parvenir à l'égalité, il faut considérer quelle est la situation de ceux qui ont subi un développement pendant 3, 5 siècles de développement capitaliste mondial. En même temps, quand il est posé ces droits et devoirs des États internationaux, est posé fortement la souveraineté nationale, mais aussi la souveraineté populaire. Ces concepts ne sont pas les mêmes, mais on reviendra là-dessus. La souveraineté nationale, entre autres, par exemple, et en particulier sur les richesses naturelles. Gustave l'a bien souligné, la carte des guerres et du pétrole, on voit que l'importance de cela. Je prendrai l'exemple de la charte des droits et devoirs économiques des États, qui est un document qui a été adopté de nouveau à une écrasante majorité par les Nations Unies une douzaine d'années avant, 1974, puisque tu es à côté de moi, je ne vais pas dire 74, et qui a été également avec l'opposition des États-Unis, et j'ai vu beaucoup d'articles de juristes américains qui mitraillaient contre cette charte des droits et devoirs économiques des États, qui a effectivement provoqué beaucoup de débats, parce que c'est un document qui est de nouveau dans un tiroir dont on ne parle plus, mais qui est d'une très grande puissance, dont on a reproduit, parce que c'est un long document, quelques passages ici. Alors, sur la question justement de l'environnement. Quand on parle aujourd'hui d'effet de serre, de la fin du pétrole proche, etc., etc. Cette charte, à son chapitre 3 et l'article 30, dit ceci. La protection, la préservation et la valorisation de l'environnement pour les générations présentes et futures sont la responsabilité de tous les États. Tous les États s'efforceront d'arrêter leur propre politique en matière d'environnement et de développement conformément à cette responsabilité. Et là, je le souligne en particulier, tous les États ont la responsabilité de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne nuisent pas à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale. Tous les États devraient coopérer à la mise au point de normes et d'une réglementation internationale en matière d'environnement. Si l'on pense aux affirmations, par exemple, de Bush en disant il n'y a pas de question de remettre en cause le système de vie ou le mode de vie, quelle était sa phrase exacte, je ne sais plus, américain. Si on pense aussi ces affirmations en disant les intérêts des États-Unis priment sur les intérêts de n'importe quelle autre nation. On voit très bien, et si on pense aussi effectivement aux zones, à la convergence des zones de conflit et des zones de pétrole, on voit très bien le caractère fondamental de cette affirmation, encore une fois adoptée à l'époque par une très grande majorité d'États, de manière solennelle, en votant nommément, etc., etc. Un autre élément qui est important, c'est la primauté des droits humains sur l'ensemble du droit international. Et cette primauté a été acceptée encore quelques années après à la conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne en 1993, par qu'est-ce que ça figure où exactement? Je me souviens plus. La conférence, la déclaration finale, en tous les cas, la conférence mondiale sur les droits de l'homme, considérant que la promotion et la protection des droits de l'homme est une question prioritaire pour la communauté internationale, et que sa tenue offre une occasion unique de procéder à une analyse globale du système international des droits de l'homme et des mécanismes de protection de ces droits, afin d'inciter à les respecter intégralement, donc d'en promouvoir le plein exercice de manière équitable, équilibrée. C'est-à-dire la question de la primauté. Et la question de la primauté par rapport aux droits des affaires, par rapport aux droits commerciaux, qui constitue la manière finalement, où est bétonnée la domination des multinationales, bétonnée la domination du capital financier est une chose importante. On voit que là encore, disons, vraiment du bout des lèvres, en 93, parce que c'est la fin d'un mouvement, c'est plus que la fin. Il en reste quelques éléments qui peuvent encore s'affirmer, parce qu'il y a une logique propre, disons, des droits humains, quelques éléments qui peuvent s'affirmer dans les conférences internationales. On voit que cette importance d'affirmer la primauté des droits humains est très grande. Alors que l'argument des droits humains est un argument qui est utilisé à tout bout de champ pour justifier, au contraire, alors un interventionnisme, y compris militaire, y compris économique, y compris politique, pour faire des campagnes médiatiques qui visent évidemment à tour de rôle, pas à tour de rôle. Si on a les besoins de la géostratégie et des implantations stratégiques, tel ou tel régime, telle ou telle région du monde. Bien, alors, on va... Bon, je m'en vais sauter un petit peu tout cela. Un des points centraux de cette déclaration, que je vous incite véritablement à lire et étudier, peut-être avec l'appui de l'autre bouquin, je fais un peu de pub, bon, c'est pas quand même pour rien qu'on fait les bouquins, c'est que dans la conception du développement, telle qu'elle est mise en avant par la déclaration, l'être humain et collectivement les peuples doivent être le centre du développement. Et ça doit être, ils doivent être le sujet actif du développement et la mesure même du développement et l'être humain dans toutes ses dimensions. Et il doit être aussi à terme dans des conditions égalitaires et de justice et d'équité les bénéficiaires. Ça, c'est en rupture aussi, ou c'est à l'opposé de la conception même justement où développement est posé comme synonyme de croissance. Et on oublie complètement les êtres humains et l'égalité, etc., dans toute cette équation. Ça a beaucoup de conséquences, finalement, de poser l'être humain comme centre de développement, parce que, justement, le développement est dès lors conçu comme devant être un objet aussi d'une critique, d'une réflexion, et d'une réflexion démocratique. Quel développement, pour qui, dans quelles conditions, dans quelles perspectives, en prenant en compte l'environnement, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un débat, finalement, qu'on n'évoquera peut-être pas aujourd'hui, mais sur la critique du concept de développement, partant sur la critique de croissance-décroissance, qui sonne un peu à faux, parce qu'il y a, déjà dans ce texte-là, je dirais, en tout cas en filigrane, un concept de développement qui n'est pas confondu avec l'idée d'une croissance infinie, d'une croissance qui morderait, porterait une empreinte écologique fatale à l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, et comme ça je tiendrai les 5 minutes, il est frappant que dans ce texte, le mot croissance, c'est un texte qui fait 3-4 pages, enfin ça dépend des versions, sur papier A4 c'est 3 pages, 1834 mots, je les ai comptés parce que c'est facile avec un Word, ou avec OpenOffice. On travaille avec OpenOffice, hein. C'est une vieille habitude de langage, excusez-moi. 1834 mots, eh bien le mot croissance ne figure nulle part. Le mot ou l'expression... le mot développement figure 48 fois. Bon, ça, c'est normal dans un type de texte qui parle du droit au développement, mais enfin, c'est quand même beaucoup sur 3 pages à 4. Mais l'expression développement économique ne figure que 3 fois, et encore, elle est toujours développement économique, social et culturel. C'est-à-dire, chaque fois, les éléments sont associés. Donc, il y a là véritablement, je crois, pour l'avenir, une source d'inspiration et de réflexion, d'autant plus si on pose la question du développement comme devant être fondée sur une démocratie participative, ce qui est souligné aussi à plusieurs reprises dans le document. Ça veut dire que les États se font un propre devoir de développer la participation populaire, les individus, les peuples étant des acteurs, des sujets actifs du développement. Pardon. Si on part de cette dimension-là, On peut penser que cette déclaration est toujours une source d'inspiration pour le mouvement altermondialiste, pour les mouvements sociaux, à condition justement qu'elle s'en empare et non pas qu'il laisse les États, d'ailleurs actuellement babolés, autour de ce texte. Merci beaucoup.